La nuit est tombée sur le stade d'un quartier noir de Los Angeles. Dans les tribunes, les supporters hurlent, les pom-pom girls s'agitent sur le bord du terrain. Les joueurs, eux, mettent au point la tactique de la dernière séquence de jeu. Spencer James s'empare du ballon, file vers l'en-but voisin et marque les points de la victoire pour l'équipe de Crenshaw. Hurlement de joie avant le drame. Bienvenue dans Sériland, zoom sur la série All American dont la saison 3 vient de débuter sur Salto et sur ces fictions qui nous embarquent dans les coulisses du football américain. Sériland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva et je suis férue de sport, de tous les sports. Enfin presque. Certains me sont totalement étrangers, à l'instar du football américain. Je comprends l'enjeu, mais les règles demeurent un mystère pour moi. Les séries américaines se sont emparées évidemment de cet univers, décor parfait pour les dramas, les fictions pour ados, d'autres pour adultes. Ce sport devient un personnage à part entière et nous raconte la société américaine, avec son lot de fric, de drogue, de pom-pom girls, de défis, de blessures, mais aussi de déterminisme social et de difficultés raciales. Alors que se prépare le Super Bowl, la grande finale de football américain le 7 février, avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Charles Martin, journaliste à Première, et Patrick, notre voix, nous avons choisi de plonger dans la nouvelle saison de All American, mais aussi dans Dermy, Ballers ou encore l'affaire O.J. Simpson. Comme chaque semaine, il nous fallait un expert, quelqu'un maîtrisant parfaitement l'art de ce sport, et Sérivore. Cet homme existe. Il présente sur la chaîne L'Équipe un magazine consacré au football américain et il sera le présentateur et commentateur privilégié du Super Bowl, opposant, si j'ai bien tout compris, les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. Grégory Hacher est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, le retour d'une série hilarante à voir sur Canal+, signée Phoebe Waller-Bridge, autrice de l'excellente série Fleabag. Sa première création s'appelle Crushing et c'est un petit bijou. Et Charles Martin nous présentera ce qui sera la fiction événement des prochains jours, We Are Who We Are.
Sériland, épisode 42. La série de la semaine.
Bonjour Charles Martin.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Sériland. Et je vous présente Grégory Hacher. Bonjour Grégory.
Bonjour, bonjour Eva, bonjour à tous.
Merci infiniment de nous avoir rejoints. Je sais que les heures de sommeil sont une denrée rare en ce moment, puisque vous suivez notamment le foot américain avec un petit décalage horaire que j'imagine très agréable à vivre.
Oui, mais on le vit bien, c'est un choix. Donc oui, super.
Et vous êtes un passionné de football américain. C'est pas un euphémisme que de dire ça.
Non, c'est pas une opportunité professionnelle. C'en est une dans le fait qu'on m'a proposé de présenter le Super Bowl. Mais oui, depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, je crois que le premier magazine américain s'appelait Sport Action. Ouais, Sport Action, j'avais trouvé ça dans une librairie à l'époque de ma vie bordelaise. Et 89, donc j'avais 13 ans. Voilà, le premier magazine.
Vous étiez tout petit.
Ouais, ça fait un petit moment là maintenant. Hein. Ouais, ça fait
c'est
mal.
Vous qui l'avez dit.
Ouais, c'est moi qui l'ai dit, ouais.
C'était en 89, mais on va parler de séries actuelles.
Ouais, bien sûr.
Et pour commencer, j'aimerais qu'on évoque la série All American, qui est disponible donc sur Salto. La saison 3 vient à peine de débuter. Je le disais en introduction, tout commence lors d'un match décisif. Spencer James, qui est interprété par Daniel Ezra, offre la victoire à son lycée de Crenshaw. C'est un lycée qui est situé dans un quartier pauvre de Los Angeles. Une victoire, des coups de feu. Et puis, à l'issue de ce match, le jeune joueur est recruté par l'équipe d'un prestigieux établissement de Beverly Hills. Donc, changement d'équipe pour ce gamin, changement de vie aussi pour ce jeune homme noir. All American est tiré d'une histoire vraie, celle de Spencer Pessinger, qui fait office de consultant et de producteur pour cette série. Il a notamment joué avec les Giants de New York. Grégory, est-ce que d'abord vous connaissiez ce joueur, le vrai joueur ?
J'ai appris sa connaissance par le biais de la série.
D'accord.
Voilà, pour être tout à fait honnête, parce que ce n'était pas, parce qu'il a pris sa retraite depuis...
Assez jeune d'ailleurs, à 29 ans.
Ouais, il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, il faut quand même dire ça tout de suite, c'est un peu comme... Quand on parle des joueurs du PSG, par exemple, dans notre foot à nous, on a l'impression que tous les joueurs de Ligue 1 sont payés des milliards ou des millions, soyons plus raisonnables, ce qui est faux. Et dans le cas du football américain, tout l'argent n'est pas garanti. C'est-à-dire que vous pouvez signer des contrats sur 3 ou 4 ans, je vais dire 30 millions de dollars sur 3 ans, Et il n'y a peut-être que 5-6 millions de dollars de garantie. Le reste, faut éviter les blessures ou les méformes. Vous allez me dire, on peut vivre avec 5 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, l'environnement fait que ce n'est pas toujours aussi évident. La culture, l'éducation, ce qu'on fait, tout ça, fait que c'est compliqué. Et donc lui, il a eu une carrière assez classique, qui a duré 4 ans, parce qu'une carrière NFL, c'est environ
court, hein,
4
ouais.
ans, voilà. Pour des joueurs lambda, qui me pardonnent hein, pour ce mot-là un petit peu péjoratif, mais en l'occurrence, c'est une réalité. Et finalement, c'est pas surprenant, c'est un destin assez classique de joueur NFL.
Et alors, est-ce que la série, vous la conseillerez aux gens qui ont envie de découvrir le football américain, par exemple ?
C'est pas la première série que je recommanderais. Je trouve qu'elle est intéressante, alors pas d'un strict point de vue sportif, mais je trouve que d'un point de vue sociologie, elle est intéressante, parce qu'il faut savoir que le sport aux États-Unis et en particulier le sport américain, est vécu très différemment de chez nous, d'accord ? Il faut bien voir qu'ils sont beaucoup plus sportifs que nous, ça c'est un fait, et je parle de nous français, hein, parce qu'en Europe, il y a des pays bien plus développés sportivement que nous, mais là-bas, il n'y a pas de club. Nous, on vit dans un monde de clubs, et ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle vous montre l'évolution d'un joueur du lycée, puis après l'université, puis voilà, il y a toute une vie qui fait que les étapes sont scolaires, universitaires et après professionnelles.
Charles, en une phrase, qu'est-ce que vous pensez de la série ? Comment vous en parleriez ?
Comme disait Grégory, c'est-à-dire que c'est pas tellement une série qui raconte super bien le football américain, mais socialement, c'est une série très intéressante sur son atmosphère. Elle est très touchante par rapport à ses personnages et elle raconte un peu les mêmes thématiques sociales, le même genre d'ambiance qu'on avait dans Friday Night Lights. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Friday Night Lights.
Non, dites-moi, rappelez-moi.
C'était la série portée par Kyle Chandler, le héros de Demain à la Une, où il incarnait le coach d'une équipe de foot de lycée. Ça a pris fin en 2011 après 5 saisons et elle racontait parfaitement cette excitation des matchs du vendredi soir, cette folie autour du foot US, la pression pour les gamins, pour le staff, etc., pour tout le lycée, une espèce d'Amérique pour qui le football représente beaucoup.
Et c'était, vous avez retrouvé cette ambiance-là avec All American ?
Il y a cette ambiance-là qu'on retrouve exactement dans All American, ouais.
Alors moi, de mon côté, je l'ai regardé dans un premier temps un peu comme une série pour ados avec son lot d'histoires d'amour, de rivalité entre garçons. Mais effectivement, je trouve que la dimension sociale est extrêmement intéressante parce qu'il y a cette dichotomie tout d'un coup entre deux quartiers d'une même ville, parce qu'on est à Los Angeles et on est entre blancs d'un côté, les noirs de l'autre, entre le bling-bling d'un côté et les quartiers pauvres. Mais je dis ça tout en reconnaissant qu'il y a une qualité supplémentaire, c'est que ce n'est pas caricatural, parce qu'on sent bien que ces équipes de foot américains, ce que vous disiez Grégory, elles sont rattachées avant tout à des établissements scolaires. Et donc, elles reflètent par ricochet la vie des quartiers. Et c'est en ça que je la trouve extrêmement intéressante. Mais bon, il y a évidemment question de foot quand même, c'est oui. Le décor principal. Mmh. Je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode 1 de la saison 1, premier entraînement à Beverly Hills pour Spencer James.
Regroupez-vous les gars, on va pimenter un peu cette séance. Spencer, t'as déjà joué en défense ?
Non, pourquoi ?
Parce que tu vas essayer.
Je veux pas être défenseur, moi.
Tu prends le poste que je te donne, d'accord ?
Alors vous changez ma position ?
Spencer.
Après tout ce que vous m'avez dit l'autre jour, moi si je suis venu, c'est pour mettre des touchdowns.
T'es venu pour jouer au football, au sein d'une équipe. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison ? Merci. Tu as deux options, mon garçon. Soit tu es de ce côté de la ligne, ou alors tu es de l'autre côté. Le choix t'appartient. Qu'est-ce que tu décides ? 7, go !
Je vous voyais réagir, Grégory, en écoutant l'extrait. Qu'est-ce qui vous a fait tilter ?
Il faut bien comprendre que on peut changer de poste. Ça, je fais la comparaison.
Ah oui, ça, c'était une grande découverte pour moi. Vous pouvez être attaquant et défenseur en football américain.
Surtout qu'il a deux postes très différents. Je fais très court. Je vais essayer d'être le plus didactique possible. Il occupe un poste de wide receiver. Donc c'est celui qui reçoit le ballon du quarterback.
Et qui doit courir après pour aller marquer.
Il réceptionne le ballon. Il doit aller le plus loin possible ouais. En évitant les défenseurs et essayer de marquer le touchdown. D'accord ? Et là, on lui demande de jouer linebacker, ce que le Spencer jouera dans la vraie vie, sa vraie carrière. C'est le rôle opposé, c'est-à-dire que vous êtes dans la défense et vous devez aller choper le quarterback pour le faire tomber, lui prendre le ballon ou stopper l'attaque d'en face. Ce sont vraiment deux postes complètement différents et il faut d'un côté des mains et une explosivité et de l'autre une explosivité et davantage de force et de vision du jeu.
Mais donc c'est possible qu'on puisse devenir défenseur après avoir été attaquant.
Par exemple, Greg Ward, qui est un receveur de l'équipe des Eagles de Philadelphie, a joué quarterback toute sa carrière en université, mais il n'avait pas le niveau suffisant, l'excellence suffisante pour jouer quarterback en NFL et donc il est devenu, grâce à sa vitesse, grâce à son QI football, comme on dit, son intelligence de jeu, et grâce à sa connaissance de l'attaque, un très bon receveur aujourd'hui dans la Ligue.
Et ben voilà, on a déjà appris une chose sur le football américain. Comme quoi, c'est quand on l'explique bien, c'est facile à comprendre.
Mais attention, hein, c'est rare. C'est-à-dire que vraiment, quand vous êtes spécialisé
bien.
Dans un poste... C'est-à-dire qu'il faut être honnête, disons les choses, vous faites 2m15, 130 kilos, vous n'allez pas jouer receveur.
Voilà, on est d'accord.
Voilà.
C'est comme Mbappé, vous ne le faites pas jouer arrière.
éventuellement arrière latéral pour qu'il fasse voilà, des centres, mais défenseur central, voilà. Non, ça ira pas.
Oui, j'arrive à comprendre quand
Bravo,
même.
Bravo, Eva.
Ouais, voilà. All American, c'est donc la chronique d'un joueur noir face à un monde de blanc.
L'époque où t'étais une vedette et où tu faisais la pluie et le beau temps dans le quartier, est révolue.
Tu sais ce que je crois ? Je crois qu'en fait, t'es jaloux.
Jaloux qu'un gamin de 17 ans soit plus respecté que tu l'as jamais été. Et ça sans répandre la terreur.
Tu sais ce que je crois, moi. T'es plus une star du foot maintenant. Ta tête de premier de la classe, tout le monde s'en fout. T'es qu'un noir parmi d'autres dans les rues de Grinchow. Un mec qui a plus rien à offrir.
Si j'ai plus rien à offrir, j'ai plus rien à perdre. Alors si tu touches à coup poids, Madame Baker, y a rien qui m'empêchera de m'en prendre à toi et de te le faire payer.
Vous allez le découvrir peu à peu parce que évidemment la série devient un peu plus pas série policière, mais il y a un suspense aussi à travers ces trois saisons et ça tourne assez mal à la fin de la deuxième saison. Je peux pas vous en dire plus, sinon je spoil. Vous savez qu'on n'a pas le droit dans Sériland. Grégory, est-ce que le football américain est une terre égalitaire ou au contraire là encore les tensions raciales sont nombreuses ?
Elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire autant la NBA, on va comparer avec deux grandes ligues, dont
Bien
une
sûr.
Qui est devenue très populaire en Europe, qui est pratiquée de basket évidemment. Autant vous avez aujourd'hui des présidents et des entraîneurs noirs en NBA avec une majorité de joueurs noirs, autant ça ne l'est pas du tout en NFL. Rappelons très rapidement que nous avons un système de clubs, comme je le disais tout à l'heure, eux passent par l'université, et après, les clubs, nous on appelle clubs, s'appellent des franchises. Ça appartient à des propriétaires multimilliardaires, dont Donald Trump d'ailleurs a été à un moment, et c'est pour ça aussi ça expliquera son conflit avec la NFL, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, parce que c'est assez passionnant. Et en fait, ces hommes-là sont souvent des hommes blancs, riches, et très âgés. Et ils sont dans leur monde, quoi. Ils sont pas toujours au fait de toutes les tensions raciales qu'il y a aux États-Unis et d'une certaine égalité. Pareil pour les coachs, il y a très peu de head coach, c'est-à-dire les entraîneurs principaux, qui sont noirs. Il y en a une minorité. Ça commence à évoluer.
C'est ce que je vais vous demander. Est-ce que ça commence un peu à changer ? Est-ce que les mouvements auxquels on assiste en ce moment aux États-Unis font aussi bouger les lignes dans le football américain ?
Oui et non, parce qu'on se rappelle également que Colin Kaepernick, c'est peut-être un nom qui vous dit
c'est
quelque chose.
C'est pour ça que je voulais vous en parler, évidemment.
Voilà, ce quarterback des San Francisco 49ers qui avait mis un genou au sol pour dénoncer les inégalités raciales et qui s'était donc retrouvé en conflit ouvert avec Donald Trump. Donald Trump avait quand même utilisé son fameux You are fired comme il l'avait fait dans The Apprentice.
Vous êtes viré.
En disant que la NFL devrait s'occuper de tous ces connards qui se mettent à genoux. Hein. On était dans des mots comme ça. Et encore, je pense que je suis extrêmement poli en disant ça par rapport à la phrase originelle. Et donc, c'était des années avant, enfin des années, pas tant que ça, mais des années avant George Floyd. Et il avait raison, avant tout le monde. Et alors, il a signé un gros contrat de pardon, j'appelle ça comme ça, avec la NFL, avec Nike également. Mais aujourd'hui, il n'a jamais retrouvé un club.
C'est ça.
Ce que je veux dire,
il
c'est
a été
que si
totalement
vous êtes...
banni de la vie sportive. Hein.
Et pour faire court, est-ce qu'il a le niveau pour jouer au moins en quarterback remplaçant dans l'une des 32 franchises ? Oui. Et si je dis franchise et pas club, c'est parce que si ça appartient au président, ils ont la possibilité de changer de ville également. Donc, c'est totalement différent. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Alors j'aimerais qu'on passe un dernier extrait de la série All American qui est assez révélateur du rapport des médias avec les sportifs. On est dans la saison 3, épisode 1, pas de spoiler, vous inquiétez pas, Spencer James change d'équipe, il revient à Grinchow, une journaliste en l'occurrence, l'interroge à ce sujet.
So, why'd you abandon Beverly?
I thought we were focusing on South Grinchow High.
We will, but I'd be a horrible reporter if I didn't get context.
Okay, well I ain't abandoned nobody, it was just time to come home. My family, my community, they needed me.
And how do your former Eagle teammates feel about being left behind?
Look, I'm sorry, but you looking for beef that just ain't there.
Alors dans cet extrait, la journaliste demande à Spencer pourquoi il a abandonné l'équipe de Beverly, ce à quoi il répond qu'il n'a abandonné personne. Il précise simplement que sa famille et sa communauté ont besoin de lui. Et la journaliste insiste et lui confirme de son côté qu'il n'y a pas de polémique à avoir, qu'il n'a abandonné personne, que c'est la vie sportive, c'est comme ça, on change d'équipe. Grégory Achard, est-ce que c'est compliqué les rapports avec les médias et les joueurs de football américains ? Est-ce que ce sont les médias qui font aussi et défend les carrières des sportifs ?
Disons qu'à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la draft, c'est donc la sélection des meilleurs joueurs universitaires sur plusieurs tours par les équipes professionnelles. D'accord ? Et donc, si vous avez un bon rapport sur vous après avoir eu de bonnes stats et après avoir fait de belles années universitaires, eh bien oui, si
ça facilite.
Ça aide. C'est-à-dire que si vous êtes drafté en première, deuxième ou troisième position, vous avez un contrat garanti de plusieurs millions de dollars. Si vous êtes drafté en fin de quatrième, cinquième ou sixième tour, vous avez juste une possibilité de montrer votre talent avant de vous faire faire ce qu'on appelle couper. Donc oui, les médias sont extrêmement importants et être un bon client, quel que soit finalement le sport ou le média, c'est important.
Charles, vous êtes passionné de football américain aussi. Est-ce que vous avez appris des choses avec All American ou c'est un autre contexte et c'est plutôt le contexte social qui vous intéressait dans la série ?
Bien sûr, non, on n'apprend pas grand-chose sur le foot en tant que tel si on connaît un peu déjà le football américain. C'est le côté soap qui marche surtout dans All American, cette espèce de tiraillement entre la nouvelle vie clinquante et la famille laissée derrière à Compton, justement. C'est ça qui marche.
Et c'est extrêmement intéressant. Les 3 saisons de All American sont disponibles sur la nouvelle plateforme Salto. Et nous allons le voir, ces thématiques traitées dans All American se retrouvent aussi dans d'autres séries ayant pour décor le football américain.
Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
Ben oui, parce que quand on parle de médias et de foot américain, ne riez pas, Grégory Achard. Il y a vous adorez notre voix ?
J'adore
la voix de Patrick.
Voix. Non, la vôtre.
Mais la voix de Patrick aussi.
Bien sûr.
C'est la voix de Dexter. La version française de Dexter.
C'est pour ça tout ce plastique au sol. D'accord.
Et ces gouttes de sang qui sont à côté de vous. Bon, quand on parle de médias et de foot américain, il y a une affaire qui revient en mémoire tout de suite, c'est celle d'O.J. Simpson, immense joueur de foot américain dans les années 70, accusé en 1994 d'avoir assassiné son ex-épouse, Nicole Brown, et son ami Ron Goldman. L'arrestation a donné lieu à une scène surréaliste. Je ne sais pas si vous en souvenez, vous étiez petit. Hein. Bah. Une course-poursuite entre O.J. Simpson et la police, sous les objectifs de tous les médias américains. Et il y a une série qui raconte super bien cette histoire, vraiment avec brio. C'est la première saison d'American Crime Story, extrait d'un entretien entre l'avocat d'O.J. Simpson et un journaliste du New Yorker.
L'acharnement systématique contre O.J. Simpson d'une police de Los Angeles partiale et raciste. Parce que c'est un homme noir.
Pardon, quoi ?
La police de cette ville a un passé honteux. Ça, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Et cet inspecteur, Mark Furman, un des premiers sur les lieux, a admis être raciste. Chaque preuve qu'il a touchée est contestable.
Alors, pour être clair, vous dites que ce policier a piégé O.J. Simpson ?
Peut-être. Peut-être Mark Furman, peut-être d'autres, dans une conspiration.
Mais attendez, alors, toutes les preuves, le sang retrouvé, ont été par je ne sais quel moyen mis là intentionnellement par des officiers de police pourris et racistes. De la scène de crime à la Bronco jusqu'à Rockingham.
Grégory, je sais que vous avez vu cette série, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je l'aime énormément. J'ai mis curieusement un peu de temps à la regarder. Je ne l'ai pas regardée tout de suite. Je l'ai mis de côté. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ce serait intéressant que je réfléchisse à pourquoi je ne suis pas allé directement. Mais j'ai pris le temps de le faire. On a eu du temps un peu ces derniers mois.
Je ne vois pas de quoi vous parler.
Ce que je trouve passionnant dans cette histoire-là, c'est cette espèce de confrontation permanente entre... On arrive dans une zone grise. Je vais faire un jeu de mots, mais il n'était pas volontaire. Il n'y a rien qui est tout blanc, il n'y a rien qui est tout noir. Et là, on est vraiment... La période dans laquelle a lieu ce moment est fondamentale, puisque ce sont les émeutes de Los Angeles. On sort de ces émeutes de 92 qui ont été un chaos invraisemblable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle d'émeutes estivales aux États-Unis dernièrement. On voit bien que c'est compliqué un petit peu partout, malgré la pandémie. Mais il faut se rappeler de la violence de cette période-là.
Et la série commence d'ailleurs avec les images d'archives de 92.
Exactement. Hein. Et en fait, ces émeutes changent le procès de O.J. Simpson. C'est-à-dire que ses avocats, en tout cas son avocat, parce qu'ils sont plusieurs avocats, mais l'avocat noir qui va le représenter, décide, pour le faire gagner, d'en faire un procès racial. Alors que c'est sans doute le procès pour meurtre. Mais comment lui reprocher, vu la période à ce moment-là ? Il va tout faire, dans son rôle d'avocat, pour en faire un procès racial. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne dirais rien, même si vous connaissez peut-être la suite. Mais toujours est-il que c'est plus qu'une série de football américain, c'est une série sur l'histoire américaine, en fait. Et il n'en est qu'une partie, parce que c'est une idole absolue. C'était le Heisman Trophy d'une époque, donc le meilleur joueur universitaire. Il a été de nombreuses fois pro bowler, donc meilleur joueur parmi les meilleurs joueurs de la saison. C'est un garçon exceptionnel, un running back, celui qui court avec le ballon. Mais c'était aussi un personnage qui n'était pas tout à fait équilibré, on va dire, jusqu'à ce qu'arrive ce meurtre pour lequel il a été acquitté, je rappelle.
Tout à fait.
Mais je trouve que la série reflète, mais alors les tensions de l'époque, c'est vraiment une série sociétale.
Alors complètement, et alors je rajouterais qu'en plus, elle montre aussi la puissance des médias américains, et plus encore, elle illustre toutes les failles du système judiciaire américain, où tout est possible pourvu qu'on gagne au bout du compte ce procès. Charles, est-ce que vous connaissiez l'affaire avant de découvrir la série, vous qui êtes tout jeune.
Je ne suis pas si jeune que ça. Moi, j'avais une dizaine d'années quand
tu as
eu l'affaire. C'est ça. Moi, ce que je trouve super dans ce qu'a fait Ryan Murphy, c'est vraiment
cette déconstruction. Hein, voilà, qui est le créateur de la série.
Ouais, exactement. C'est le papa de Glee, notamment Ryan Murphy. Comment il a réussi à déconstruire un mythe américain, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que O.J. Simpson, Grégory en parlait un peu, c'était une espèce de demi-dieu dans les années 80. C'était une superstar du sport, de la NFL. Vraiment, il a marqué l'histoire de son sport. Et puis, il a fait tomber beaucoup de barrières aussi pour les Afro-Américains à cette époque-là. Donc, c'était vraiment une icône de la société américaine sur tous les plans. Et au-delà du procès judiciaire, c'était une espèce de choc pour toute l'Amérique de voir ce demi-dieu ainsi déchu et placé devant un juge, quoi.
Alors, il faut qu'on précise aussi, donc c'était la première saison d'American Crime Story. Charles, il y a eu d'autres saisons après et avec d'autres histoires, en l'occurrence, qui n'ont rien à voir avec le football américain.
Ah non, rien du tout. Alors, la deuxième saison, c'était The Assassination of Gianni Versace, qui raconte du coup, donc comme le titre l'indique, l'assassinat de Gianni Versace à Miami. Ça, c'était vachement bien aussi, extrêmement bien fait sur... Dans la forme surtout, il y avait une esthétique incroyable que Murphy a réussi à rendre sur le luxe de Versace, c'était assez fou à regarder. Et ça fait quelques années maintenant qu'elle est sortie, elle est dispo sur Netflix encore. Et la saison 3 est en tournage, elle s'appelle Impeachment, elle racontera l'affaire Monica Lewinsky. Et on sait que normalement Clive Owen devrait jouer le président Clinton.
Voilà. Ouais, donc on comprend que ça raconte toujours aussi un pan de la société américaine. C'est ça qui est intéressant derrière le fait divers qu'on pourrait voir de façon classique. Grégory,
là où ils sont vraiment très très forts, c'est ce que disait un peu Jean Rochefort à l'époque, hein, avec leur charisme et leur gueule, ces Américains. Ouais. C'est-à-dire que même des stars comme Cuba Gooding Jr., qui a quand même eu un Oscar du meilleur second rôle pour Jerry Maguire, film sur le foot US, qui est un film fantastique, John Travolta, David Schwimmer, qui vous voulez dans ces... Il joue exceptionnellement bien, parfois un peu too much, mais c'est pas grave. Et vous êtes dedans, vous ne les voyez plus eux, et ça se dévore.
Voilà, ça se dévore, et on est quasiment devant un film documentaire, tellement tout ça est très, très documenté. Mais moi, j'avais aussi envie de découvrir le côté un peu bling-bling des joueurs, leur rapport à l'argent, leur avenir, quand leur carrière s'arrête. Et alors, il y a une série qui est à ne pas manquer, et c'est vous, Grégory, qui m'en avez parlé. Je ne la connaissais pas, ça s'appelle Ballers, avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, qui lui... En fait, au départ, est ancien catcheur professionnel dans la vie. Et dans la série, il joue un ancien athlète reconverti en gestionnaire de fortune. Je vous propose deux extraits où il est question de la retraite, de l'après-carrière.
Quand je pensais au jour où je prendrais ma retraite, je me voyais sur un podium, devant ma famille, mes amis. Le président d'un côté et le coach de l'autre, avec un micro entre les mains. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Tout seul chez moi, le cul sur mon canapé, les yeux rivés sur mon téléphone... En train d'attendre le coup de fil du président, du directeur. Je me serais même contenté d'un coup de fil de l'entraîneur. Merci, Spence. Bonne chance, Spence. Un de ces jours, Spence. Tu sais quand je l'ai reçu, ce coup de fil? Jamais.
Sérieux?
Il va falloir que t'arrêtes de faire n'importe quoi. Il te reste un seul contrat, et quand il sera fini, je te garantis que tu seras à la rue, comme nous tous.
Donc là, on vient d'entendre Spencer Strathmore, qui est le personnage principal incarné par Dwayne Johnson. Et je vous propose un deuxième extrait sur la même thématique avec un autre joueur nommé Charles Green.
Comment ça se passe, ta retraite, toi?
Oh, moi, grave cool. Ouais, c'est trop cool.
Ah ouais, chaque jour est mieux que la veille.
T'imagines? Cool.
Tu te fais chier?
T'es épouvantable. Sans blague, j'ai eu une carrière de rêve. Champion du Super Bowl, 8 coupes de Pro Bowl, j'ai une baraque confortable, un chouette boulot. Une femme superbe qui ne demande qu'à baiser. En plus, je suis parti sans être amouché. Ça devrait être le pied. Mais n'empêche, sur le terrain, j'étais le numéro 71. Charles Green, tu saisis bien ce que je veux dire? Tu vois, t'enlèves le maillot, tu ôtes le casque et t'es plus qu'un balèze qui bosse dans une succursale automobile.
Putain, comment tu me déprimes là?
Ballers est à voir sur OCS, il y a 5 saisons qui sont disponibles. Grégory, je crois que vous adorez cette série et la musique avec.
Oui, alors la musique, on s'en sert pour le générique des soirées de foot US sur la chaîne L'Équipe. La musique est bien, j'adore cette série pour plein de raisons. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Un, je trouve qu'elle reflète parfaitement ce qu'est l'univers du sport professionnel aux États-Unis. Et on entend souvent les agents, le fonctionnement des équipes, le côté sans cœur, business is business, et puis les joueurs ne sont que des pions. C'est exactement ça dans la série. La deuxième chose, c'est dû aussi à Dwayne Johnson, qui était The Rock quand il était catcher, qui est aujourd'hui et depuis plusieurs années l'acteur le mieux payé aux États-Unis. Qui
fait 700 000 dollars par épisode, il était payé.
Ouais,
là.
Là-dessus, ouais, ouais. C'est ça. Puis quand il tourne un film, c'est 20 millions, retrouve à 25 millions de dollars. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. Et j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai tendance à croire, on en parlait avant de commencer ce podcast, Eva, que c'est une série qui va passionner encore davantage ceux qui connaissent ce sport. Je suis ravi de voir que vous n'étiez pas si au courant que ça vous a quand même assez
plu.
Ah
oui, complètement.
Parce
complètement.
Que là, l'extrait qu'on a entendu sur Charles Gaines qui prend sa retraite est intéressant. Parce que quand vous êtes une star, que la foule scande votre nom, quand ça s'arrête, c'est comme quand un artiste, la lumière s'éteint, que vous n'êtes plus sur scène, ça doit être d'une souffrance épouvantable. Je ne l'ai pas vécu, je n'ai malheureusement pas été sportif de haut niveau, mais je trouve que ça le reflète bien. Et Dwayne Johnson joue le rôle d'un ancien immense joueur qui a perdu tout son argent et qui tente de se reconstruire en aidant les autres joueurs à faire des bons placements financiers. Et on est au cœur, et c'est ça qui est drôlement bien, de la vraie saison NFL. C'est-à-dire qu'ils se servent pour le scénario de ce qui s'est passé réellement pendant l'année. Et ils l'adaptent parce qu'on se retrouve à ce qu'on appelle chaque intersaison. Et pendant l'intersaison, vous avez des transferts, des négociations. Et donc, c'est un jeu de chaise entre les présidents de club, lui qui essaye de placer ses joueurs, la création de nouvelles franchises. Comment ça se passe dans les clubs? Comment ça se passe pour couper un joueur quand on lui dit « c'est fini, mec, on arrête en deux secondes ». Voilà, je trouve que c'est une immersion assez dense au sein de ce sport.
Oui, puis on voit les joueurs aussi dans leur vie d'à côté,
oui.
C'est-à-dire que
oui.
Il n'y a pas que l'entraînement.
Il y a du cul. Ouais, y a du cul.
On peut dire ça. Alors pardon, mais alors pardon de vous dire une chose, parce que la série elle date de 2015. C'est, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais.
On est bien d'accord.
Ouais.
Et moi je la trouve un tout petit peu vieillotte. Voir.
Vous allez me dire qu'elle est misogyne. Je vous vois venir.
Et je la trouve assez insupportable à certains égards, notamment quand elle représente les femmes.
Mais c'est-à-dire que malheureusement, je ne peux qu'être d'accord, mais il faut aussi dire qu'elle représente une certaine réalité.
C'est bien ce qui m'insupporte.
Bah,
mais
je comprends très bien.
On est d'accord. Charles, est-ce que vous aimez aussi Ballers? Est-ce que vous y retrouvez là-dedans?
Oui, moi j'ai tout vu aussi, comme Grégory. Alors après, j'ai surtout aimé les premières saisons. Je trouvais que ça se regardait un peu comme une version NFL d'Entourage, parce que vous vous souvenez.
Oui, Entourage, bien sûr.
Des années 2000. Ce qui est cool, c'est Dwayne Johnson, surtout, qui se détache de son image bodybuildée de The Rock et qui fait quelque chose d'un peu plus nuancé que de d'habitude. Et puis, Grégory aussi sera d'accord avec moi. Il y a plein de guest stars NFL qu'on croise dans la série, et ça, c'est quand même sympa quand on aime le foot US. Moi, je me souviens, il y a Antonio Brown qui joue aux Steelers à l'époque, qui fait une apparition. Il y a Julian Edelman des Patriots. Pas mal de joueurs comme ça qu'on croise.
Il y a Eddie George.
Mais ça y est, vous nous avez tous perdu, parce que nous, on ne sait pas qui c'est,
non,
tous ces joueurs, vous
imaginer,
savez.
Il faut imaginer vraiment que ce sont des... Comme si c'était que les joueurs du PSG ou de Lyon chez nous. C'est vraiment...
Voilà, c'est ça.
Le haut du panier. Après, je suis d'accord avec Charles, c'est mieux au début. Ils ont plus de mal à finir. Ils ont fini au bout de 5 saisons. C'est une série, quand vous la regardez, vous avez envie d'avoir une belle bagnole, une belle montre, un beau costume sur mesure, ce genre de choses. Vous sortez de là, vous avez envie de vous dire, je veux pareil. Bon, bah, finalement, vous remettez vos pantoufles, mais enfin, c'est sympa quand même.
Oui, on peut aller faire aussi des soirées sur des bateaux. Je comprends que c'est sympa.
Voilà. Non, mais par contre, tout ça, ce bling-bling et cette cruauté.
Non, mais c'est une réalité.
Tout ça existe,
voilà,
en fait.
C'est ça.
On a l'impression que c'est poussé à l'extrême, que c'est une parodie. Et malheureusement, c'est aussi une réalité.
Donc, c'est extrêmement sympa à regarder, mais extrêmement intéressant aussi. Et avant d'évoquer une dernière série que j'aime particulièrement, je voudrais qu'on revienne un instant sur le Super Bowl que vous allez commenter. D'ailleurs, Grégory, dimanche soir, ce sera dans la nuit du dimanche au lundi. Alors, au-delà du match, c'est un événement planétaire. Là, pareil, c'est pas un euphémisme. Spectacle suivi par 100 millions de téléspectateurs en moyenne, qui a une influence considérable pour les États-Unis, pour les annonceurs et sur les séries aussi. Écoutez l'histoire de notre sérivore Clémence Olivier.
L'aparté de Clémence.
Ça peut paraître étonnant, mais figurez-vous que le Super Bowl profite aussi aux séries. Depuis sa création à la fin des années 60 et sa diffusion à la télévision, le Super Bowl est une fête. Mais la fin du match ne signe pas la fin de la soirée pour autant. Elle se poursuit à l'écran. Et pour les chaînes NBC, Fox, ABC et CBS qui diffusent la finale à tour de rôle, c'est une aubaine. Le moment est idéal pour capter l'attention d'un maximum de téléspectateurs. Et vous me voyez venir, c'est l'occasion rêvée pour lancer de nouvelles séries. C'est comme ça qu'en 83, NBC fait découvrir aux Américains le premier épisode d'une série d'action. Elle deviendra culte, c'est l'Agence Tourisque.
L'Agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment.
Barracuda et Hannibal, ça vous parle? C'est une série qui connaît un vrai succès dans les années 80. Et on peut supposer que son exposition après le Super Bowl n'y est pas pour rien. Alors bon, ça marche pas à chaque fois, mais certaines réussissent à sortir du lot. Comme la série d'animation Family Guy en 99, ou la sitcom décalée American Dad en 2005. Et cette année, c'est le reboot de The Equalizer, une série d'action avec Queen Latifah, qui tentera sa chance après le Big Game.
One, two, three, hit it.
Mais avec le Super Bowl, les chaînes ne cherchent pas seulement à faire découvrir de nouvelles séries. La stratégie, ça peut être aussi de donner un coup de boost à des fictions déjà existantes et déjà populaires. Et pour que ça fonctionne, il y a plusieurs écoles. L'une des techniques, c'est de choisir une série phare type Grey's Anatomy et de passer un épisode qui se termine sur un énorme cliffhanger, une fin avec un suspense de dingue, pour être sûr que les téléspectateurs regardent l'épisode la semaine d'après. C'est super malin. C'est ce qu'a fait ABC en 2006 avec cet épisode de la saison 2 où une bombe est coincée dans le thorax d'un patient. L'héroïne, Meredith Grey, est alors en première ligne.
Elle panique, il faut évacuer rapidement.
Je l'abandonne pas.
Grey, tu sors.
Je reste avec elle.
Vous devez faire sortir
Anna.
Tout le monde, Dr. Burke.
C'est mon interne, écoutez, elle est sous ma responsabilité.
Anna, vous ne devez pas la.
Tout se passera bien. Yang, va avec Dylan.
Toi, va avec Dylan. Non. Anna, regardez-moi.
Est-ce que la bombe va exploser? J'en frémis encore. Ce soir-là, 37 millions d'Américains sont devant leur écran. Ils seront 25 millions la semaine suivante, soit 5 millions de plus que les épisodes de début de saison. Imaginez gagner 5 millions de téléspectateurs, c'est comme conquérir l'équivalent de l'audience d'un épisode de Koh-Lanta chez nous en France. Bref, c'est colossal. Mais d'autres producteurs préfèrent séduire les Américains en sortant le grand jeu, c'est-à-dire en mettant la main en portefeuille pour assurer un grand spectacle. Comme la Fox en 2011 avec Glee, cette série pour ados dans laquelle cheerleaders et quarterbacks, entre autres, poussent la chansonnette. L'épisode proposé ce soir-là autour de la chanson Thriller de Michael Jackson est le plus cher jamais produit pour la série. Et logiquement, Glee réalisera un record d'audience. Mais le plus gros coup, c'est NBC qui le réalise en 96. Mais alors en pleine diffusion de la saison 2 de Friends, à l'époque, la sitcom qui raconte le quotidien d'un groupe d'amis à New York est déjà populaire. Mais les producteurs veulent aller encore plus loin. Ils décident d'inviter Julia Roberts, Brooke Shields et même l'une de nos stars nationales, ou presque.
Mon Dieu, c'est pas vrai,
qu'est-ce qu'il y a?
C'est Jean-Claude Van Damme. Je ne savais pas qu'il était sur le tournage, il est tellement sexy.
Ah, dites-moi.
Les muscles de Bruxelles. Wambam, Van Damme. Est-ce que tu as vu Time Cop?
Non, t'es sûr qu'il était dedans?
C'est pour dire, c'est lui qui changeait la face du monde.
En France, cet épisode s'appelle « Celui qui retrouvait son singe ». Mais aux États-Unis, son titre est une référence évidente au match de l'année « The One After the Super Bowl ». Celui après le Super Bowl. Ce soir-là, 52 millions de téléspectateurs restent devant leur écran. C'est considérable. Imaginez, c'est 47% de l'audience. Autant dire, la moitié de tous ceux présents ce soir-là devant leur télé. La suite, on la connaît. Friends deviendra l'une des séries les plus regardées de l'histoire de la télé, grâce à son rythme, son humour efficace, son jeu d'acteur, mais aussi peut-être un peu grâce au Super Bowl.
Grégory Hacher, je voyais lever les yeux quand on parlait d'audience avec Clémence Olivier. Vous imaginez 5 millions de téléspectateurs pour vous, là, mais dimanche soir?
Non, absolument pas. un dixième sera magnifique, mais ça ne me surprend pas. C'est le Super Bowl, vous l'avez très bien dit, Eva, c'est 100 millions de personnes minimum aux États-Unis, c'est 1 milliard de personnes touchées dans le monde. C'est devenu le plus grand événement sportif de l'année où on se rassemble, on se retrouve pour manger, pour être bien devant le match, et puis aussi pour voir les dernières pubs, parce qu'ils ont un sens commercial incroyable et toutes les pubs du Super Bowl sont travaillées comme ça. Mais cette année, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup en plus du match, si je peux me permettre d'en parler dès maintenant, c'est le show de la mi-temps, parce que en fait, il y a deux choses. Un, on va retrouver du public pour ce Super Bowl, alors que la saison s'est jouée à huis clos.
Comment ils vont gérer ça?
Alors, ils ont prévu dans le stade de Tampa Bay, normalement, c'est 65 000 places. Il n'y aura que 22 000 personnes.
Ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà énorme.
Ouais.
Parce que toute la saison s'est jouée à huis clos. Ils ont commencé à rouvrir les stades pour les matchs de play-off, suivant les États, puisque c'est le gouverneur qui décide, et la situation épidémique. Et donc, en Floride, ils vont accorder 22 000 places de personnes vaccinées et 7 500 places offertes au personnel de soignants ou des hôpitaux en remerciement de leurs efforts. Donc ça, c'est la première chose. Mais ils ne pourront pas tous descendre en plein milieu du stade à la mi-temps pour danser, on ne pourra pas se faire ça. Mais je suis sûr, avec The Weeknd qui est l'invité, qu'ils vont être capables de créer quelque chose d'une nouvelle fois unique, encore plus unique que d'habitude, comme par exemple, j'aime bien faire le lien avec l'investiture de Joe Biden, où on avait l'impression qu'il n'y aurait pas des millions de personnes, ce qui a été le cas.
Mais il y a eu un vrai spectacle aussi.
Il y a eu un vrai spectacle. Ouais. Katy Perry, Jennifer Lopez, Lady Gaga, les drapeaux, même avec des distances, des masques et moins de monde, on a assisté à quelque chose. Je suis persuadé qu'on aura aussi un show incroyable.
Alors, que serions-nous sans Friends dans l'univers des séries?
Mais rien,
on est d'accord. Mais que serait le football américain sans ces pom-pom girls?
Ah oui,
Non, rien, je suis désolée. Alors, deux conseils à ce sujet. D'abord, regardez la série documentaire Cheers sur Netflix qui évoque le quotidien de ces sportifs de haut niveau. C'est absolument spectaculaire et c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, en matière de série documentaire, Grégory, je pense que vous serez d'accord avec moi, impossible de passer à côté de All or Nothing sur Amazon Prime Video, qui est une immersion pendant un an dans l'équipe des Cardinals de l'Arizona. On est d'accord ?
On est d'accord. Puis ils en avaient fait également avec, avec les Eagles de Philadelphie.
C'était la saison d'après, c'est exactement. Ça. Et autre recommandation, donc pour parler des Pom-Pom Girls, c'est une série sur Netflix qui est intitulée Dermy, série estampillée pour ados au départ. Alors, étant éternellement jeune, je me suis jetée dessus pendant le premier confinement.
Bien sûr.
Et je ne l'ai pas regretté, cher Grégory. On part pour une petite commune du Midwest, une ville désindustrialisée où l'équipe de foot est complètement nulle, on va être clair. Tout le monde espère un sursaut de notoriété grâce à l'équipe donc des Pom-Pom Girls, qui est dotée d'une nouvelle coach, Colette, jeune femme autoritaire, ancienne championne et qui cherche à s'imposer.
Le premier match a lieu vendredi. Et qu'est-ce que je vois ? De l'auto-bronzant, des cuisses toutes molles, des gymnastes de seconde zone. Mais je ne vois pas d'équipe. Et surtout, je ne vois pas ma flyer.
C'est Bess, la flyer. Elle
dans mon équipe, une place, ça se gagne. Vous vous fortifiez, vous vous élevez. C'est comme ça qu'on ira au régional et qu'on deviendra championne. Soyez plus exigeante, ne vous contentez pas de soda géant et de footballeur.
On a arrêté de kiffer les footballeurs depuis le collège.
Alors la coach va devoir gérer des ados qui sont pas franchement commodes, comme vous venez de l'entendre. Il y a l'effrontée, arrogante, dévergondée qui s'appelle Bess, et puis sa meilleure amie qui est plus sage, plus rangée, Addy. C'est cette dernière qui va se lier rapidement avec Colette. Mais vous allez vite comprendre que les relations entretenues entre les différentes protagonistes sont assez complexes, ambiguës, voire toxiques. Il y a un truc malsain qui grandit au fil des épisodes. Et la série pour ados se métamorphose en série noire. D'où ma passion aussi en tant qu'adulte vieille et vieillissante pour Dermy, qui est à voir sur Netflix, qui est en 10 épisodes. Je vous vois sourire, non, Grégory Lecher.
Pourquoi vous vous auto-flageolez comme
ça ? Avant que vous fassiez, c'est pour ça.
Non, mais pardon, Eva, vous pourriez tout à fait Pom-Pom Girl Flyer, pourriez voler au-dessus d'une pyramide humaine, mais
est-ce
sans problème.
Voilà, est-ce que vous pouvez raconter ce que c'est la Flyer ?
En fait, vous savez, c'est une vraie tradition du collège et du lycée, la high school américaine. C'est-à-dire que là, on parlait de misogynie tout à l'heure, on était quand même dans un truc assez fou. Il y avait les gars qui jouaient soit au foot, soit à la crosse, ça fait partie des sports là-bas, ou au basket. Et puis vous avez les jeunes filles qui devaient apprendre à faire des « donnez-moi un O, donnez-moi un U », voilà, les pom-pom girls, voilà. Et en fait, ça s'est
professionnalisé quasiment.
Ouais, professionnalisé, ouais. Même complètement dans les équipes. Mais ce ne sont pas... Alors, il y a un certain code physique, ça je ne peux pas vous dire autrement. Mais il y a aussi des épreuves purement sportives et physiques, puisque vous avez quand même des pyramides humaines. Vous savez, quand vous montez l'une sur l'autre, vous sautez en l'air, vous faites des choses. Ce n'est pas que agiter les petits pompons. Donc, il y a une petite différence. Alors, les cheerleaders sont professionnels dans les équipes américaines, mais il y a toute une éducation sportive derrière.
Voilà, et donc la flyer, c'est celle qui est jetée plus haut, en fait, en haut de ces pyramides humaines. Et c'est absolument incroyable. Franchement, si vous regardez et la série documentaire sur Netflix, il y a quelques moments où on peut avoir peur, même en tant que spectateur, de ces acrobaties-là, parce qu'on voit que c'est vraiment des athlètes de haut niveau. Donc ça s'appelle Dermy, et c'est à voir sur Netflix, et c'est en 10 épisodes.
La découverte de Sériland.
C'est la dernière partie de cet épisode de Sériland avec nos recommandations de la semaine, les séries incontournables, celles qui font l'actualité, qu'on a regardées pour vous déjà. Alors Charles, on commence avec vous. Vous avez déjà vu ce qui va sans doute être la série événement des prochaines semaines, une série HBO intitulée We Are Who We Are, bande annonce.
In the body where everything has a price, I was a beggar.
Why do you read poetry?
Every word means something.
Never kissed anyone before.
Charles, quel est le pitch de cette série avec plein de W ?
Alors, We Are Who We Are, ça veut dire nous sommes qui nous sommes. C'est donc surtout, il faut savoir que c'est une série du réalisateur italien Luca Guadagnino. C'est un cinéaste qui avait réussi à impressionner Hollywood avec Call Me By Your Name en 2017. Je sais pas si vous venez de ce film qui avait été nommé aux Oscars.
Bien sûr.
Call Me By Your Name, ça racontait la romance d'un jeune homme de 17 ans en vacances en Italie avec un étudiant américain. Donc là, Luca Guadagnino retrouve un peu cette même patte et puis les mêmes thématiques un peu similaires, ces thèmes qui lui sont chers, sur le questionnement de l'identité notamment, ce qu'on retrouve dans le titre forcément. Et donc ça se passe dans une base militaire en Italie et on suit deux enfants américains qui explorent leur amitié et puis leurs premières amours. C'est une série coproduite par HBO qui décrit vachement bien l'exaltation de l'adolescence avec l'angoisse qui va avec cet âge, évidemment. C'est une série d'auteurs hein, qui est très intense et qui est toujours délicate, qui arrive à parfaitement parler des désirs de l'adolescence, justement, qui arrive à le faire de façon un peu déroutante, mais toujours touchante.
Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle va arriver en France ?
Oui, on sait. Depuis quelques jours, il y a ces Stars Play, la plateforme, qui a annoncé qu'elle diffuserait We Are Who We Are à partir du 7 mars. Je précise que dedans, au casting, on retrouve, il y a Francesca Scorsese, qui est la fille de Martin Scorsese, qui tient là son premier vrai rôle. Voilà. Qui est au casting.
Ben voilà, un argument de plus pour regarder cette série qui nous donne très envie. Donc ça sera au mois de mars sur Stars Play, je pense qu'on en reparlera. Merci beaucoup Charles. Moi de mon côté, juste un petit clin d'œil, mais j'ai ri très très fort ces derniers jours grâce à Phoebe Waller-Bridge. Elle est la créatrice de Fleabag, formidable série dans laquelle elle jouait une célibataire trentenaire à Londres qui tentait tant bien que mal de faire fonctionner un café qu'elle avait lancé avec sa meilleure amie qui était décédée depuis. C'est vraiment un petit pitch en raccourci. J'avais adoré Fleabag, mais avant Fleabag, la jeune autrice, réalisatrice et comédienne, était déjà à l'origine de Crashing. C'est une série qui est de nouveau disponible sur mycanal.fr. L'histoire de Lulu, alors là encore, c'est une jeune femme un peu excentrique qui débarque à Londres. Elle veut y retrouver son amour d'adolescente et le garçon en question vit en communauté, avec sa fiancée notamment, détail important, dans un hôpital désaffecté. Il faut que vous imaginiez un lieu immense dans lequel donc, ces jeunes gens vivent. Visite des lieux d'ailleurs avec Lulu et Sam, c'est un des colocataires qui pense au sexe et généralement au sexe.
Lovely low ceilings, very little light. Four floors, 12 rooms on each. Everyone occupied by a different flavor of loot.
Am I on your floor?
Yeah, you're in luck, princess.
A trapeze artist got evicted last week for shitting out the window.
So, moving in gift.
Never leave that unattended.
Thanks.
What are you doing now? Do you want to make love?
Maybe tomorrow? I've got to find a job and a door and an identity, so...
Good luck with that. What do you think?
This is the coolest place I've ever seen.
Oh, you'll get over it.
Alors dans cet extrait, Sam décrit le lieu si immense. Il précise que la dernière personne qui logeait dans cet espace désormais prévu pour Lulu s'est fait virer parce qu'il faisait caca par la fenêtre. Je reste poli. Et puis donc propose à Lulu de faire du sexe, hein, puisqu'ils n'ont que ça à faire pendant la journée. Elle lui dit qu'elle a 2-3 trucs à gérer, notamment d'aller chercher un job. Crashing est un petit bonbon. C'est une série en 6 épisodes qui se dévore, qui fait du bien, qui fait sourire avec sa dose d'émotion. Une fiction qui parle d'amour, d'alcool, de curry, mais oui, de curry, Grégory Hacher, je suis désolée, et d'amitié surtout, voilà. C'est une sorte de Friends, on en parlait tout à l'heure, mais nouvelle génération. Et d'ailleurs, Lulu, elle chante un peu comme chantait Phoebe, vous en souvenez, mal. Dans Friends, mal, ouais. Exactement, avec des chansons un peu stupides, on peut le dire.
Oh, Smelly Cat n'est pas si stupide que ça. Hein.
Ouais, enfin c'est les paroles, part... c'était très limité quand même, hein, on est d'accord.
Oui, mais la limite, parfois, du bon.
Vous voulez faire Smelly Cat ?
Smelly cat, smelly cat, what are you for? J'ai oublié le verbe.
Alors, on va s'en tenir là. Ouais. Et si vous voulez entendre Lulu chanter avec son ukulélé, c'est à voir dans Crashing. Les 6 épisodes sont à déguster sur mycanal.fr.
Le crush de l'invité. Ah, ça faisait longtemps.
Bah oui, le crush de l'invité, ouais. Grégory Hacher. Quand je vous ai demandé votre série coup de cœur des derniers mois, vous m'avez assez étonné puisque vous m'avez répondu. Suits, avocat ouais. sur mesure, série américaine qui est sortie en 2011. Les 8 premières saisons sont à voir sur Netflix. Et la série, elle met en scène Harvey, avocat arrogant, issu d'Harvard, qui a choisi de recruter Mike. Alors lui, en revanche, Mike, il rêvait de devenir avocat, mais il a abandonné ses études. Un garçon très intelligent, doté d'une mémoire incroyable. Et cette série, Suits, elle est aussi phénoménale parce qu'elle a révélé, et je sais que vous l'aimez aussi pour ça, Grégory, vous êtes si fleur bleue, elle a révélé une actrice, Meghan Markle, devenue duchesse du Sussex en épousant le prince Harry. Rencontre entre les deux avocats.
Malheureusement, nous n'engageons que des diplômés d'Harvard. Et non seulement vous n'avez jamais étudié le droit à Harvard, mais vous n'avez jamais étudié le droit tout court.
Et si je vous disais que mes facultés d'assimilation sont hors normes et que j'ai eu l'examen du barreau ?
Je vous dirais que vous mentez.
C'est un manuel de prépa de l'examen du barreau, c'est ça ? Ouvrez-le, n'importe quelle page, et lisez.
La responsabilité civile est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat...
Soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne fautive ou légalement présumée fautive l'obligation de réparer le dommage subi par une ou plusieurs autres.
Comment savez-vous tout ça ?
Je l'ai appris, quand je révisais, pour le barreau.
Ok, l'artiste.
Pourquoi vous aimez à ce point cette série, Grégory Hacher ?
Oh, il y a plein de raisons. Alors déjà, c'est un très bon extrait. C'est un très bon choix parce que souvent, quand vous regardez sur Netflix, ils vous mettent un extrait d'une trentaine de secondes et puis vous accrochez pas. Moi, je suis tombé sur cet extrait. Ça m'a attiré de suite. Je suis très en retard sur pas mal de séries. C'est-à-dire que j'ai loupé des séries des années 2000-2010. Je les ai rattrapées, mais du genre Prison Break ou Breaking Bad. Vous voyez, des trucs immanquables que j'avais loupés. Bon, et je me suis dit, non, faut quand même essayer de se moderniser un peu avant dans les années 2010. Et donc, je suis tombé sur cet extrait. Ça m'a plu. Et il y a trois choses. Un, j'adore le droit. C'est quelque chose, j'ai tenté d'en faire, bon, pas tout à fait réussi. Ça me passionne, j'ai une passion aussi pour la culture américaine, ce qui fait que j'ai le plaisir d'être dans votre émission aujourd'hui pour parler de foot américain. Puis j'aime les films de procès. Et donc là, il y a
tout est réuni.
J'ai tout. Et je trouve extrêmement intéressant ce fonctionnement d'un cabinet d'avocats à la limite de la légalité, parfois de manière un peu légale ou tout en feinte. Voilà, je trouve ça extrêmement brillant, bien mis en scène et bien joué. Parce que tous les acteurs et toutes les actrices sont extrêmement beaux, charismatiques, bien habillés. Moi, il y a un moment, ça me plaît bien de voir ça, cette espèce de puissance qui est dégagée à l'écran. Et cet acteur, Gabriel Mart, il est vraiment exceptionnel. On a envie de s'identifier à lui à la fois comme un salaud et comme un gars qui réussit tout. Voilà, c'est sans doute très masculin, très prétentieux, mais je trouve le gars très bien. Et vraiment, je vous invite à regarder parce qu'il y a des moments d'humour, il y a des moments où on apprend des choses. Je trouve que c'est une très belle série qui se perd un peu dans ces dernières saisons. Je vous recommande plutôt les 7-8 premières et principalement les 5 premières, mais c'est vraiment une série très chouette qui se dévore facilement.
Alors, qui est très divertissante, mais effectivement, on y apprend beaucoup de choses en matière de droit et de droit de la justice américaine, avec beaucoup de cas à chaque fois. C'est extrêmement rythmé.
Ouais,
et
c'est
avec,
précis. Hein,
ouais,
aussi,
c'est
hein,
très
précis. Il
faut
suivre un peu. Quoi.
Exactement. Et avec en fil conducteur l'histoire entre ces deux hommes, qui est extrêmement plaisante à regarder. Vraiment, encore une fois, je pense que c'est un très bon choix. Vous m'avez incité à la regarder, donc j'ai commencé. Je ne suis pas arrivée au bout des 10 saisons pour l'instant.
Ouais,
hein.
Mais vous allez y arriver. Je suis émue, là.
C'est vrai.
Là, vous faites mon année, là.
Oh, bah, je suis contente.
Ça me plaît.
Merci beaucoup, Grégory Hacher. Merci infiniment, Charles Martin. Surtout, vos articles sont à lire dans le magazine Première et sur le site première.fr. À bientôt. Et puis, j'imagine que vous serez devant votre écran pour suivre le Super Bowl. Sur la chaîne L'Équipe, évidemment.
Tout à fait.
Merci Charles.
Merci à vous Grégory Hacher.
Merci Eva, merci pour l'invitation.
Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode dimanche. Vous serez donc sur la chaîne L'Équipe pour une nuit spéciale à l'occasion du Super Bowl. Et comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série. Eh bien, en l'occurrence, Harvey dans Suits. Et pardon pour la vulgarité, mais il aime bien dire « Je crois au travail, je ne baisse pas avec la chance ». Dans le prochain épisode de Série Londres, je vous propose un retour dans les années 70 grâce aux nouveaux épisodes des Petits Meurtres d'Agatha Christie à découvrir sur France 2. La productrice Sophie Reville est l'invitée de notre grand entretien. Elle nous racontera notamment comment elle a pu acquérir une partie des droits des œuvres d'Agatha Christie. Série Londres est un podcast Europe 1 Studio produit par notre entraîneur Timothée Magot, réalisé par son bras droit Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe gagnante composée de Clémence Olivier, Charles Martin, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Et puis le groupe Facebook de Sériland est là pour vous aussi. Mais attention, dans Sériland, la règle ne change pas, ne change jamais. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.